Je vous remercie déjà d'abord de cette gentille invitation. C'est la première fois que j'interviens dans cette illustre institution avec laquelle on collabore. Effectivement, Gilles l'a rappelé depuis plusieurs années. Et mon regard sur les événements qui se déroulent aujourd'hui en Syrie sera un regard plutôt Macron. Je vais d'abord partir de la Tunisie et de l'Égypte, et j'essaierai de comprendre ce qui fait la spécificité syrienne, les spécificités syriennes, ou à l'inverse, les spécificités tunisiennes et égyptiennes. Je commencerai par la Tunisie, puisque les événements ont commencé, les configurations révolutionnaires qu'on constate au Moyen-Orient ont vu d'abord le jour en Tunisie, et par la suite, comme vous savez, c'était le régime de Moubarak qui est tombé. Après ces événements-là, on a pu évoquer l'existence d'un effet de domino. Qu'est-ce qu'un effet de domino ? Un effet de domino signifie tout simplement que le monde arabe dans sa totalité a été extrêmement sensible à un message qui venait des périphéries tunisiennes avant de gagner la capitale et avant de se propager dans l'Égypte. Mais l'effet de domino ne signifie absolument pas que tous les régimes vont tomber. Au contraire, l'effet de domino signifie qu'un même message sera reçu dans des contextes spécifiques à chaque pays arabe. Partant, on peut faire l'hypothèse que certains régimes pourraient tomber, d'autres pourraient devenir infiniment plus sécuritaires, d'autres vivraient une période d'incertitude. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez le monde arabe dans sa totalité, vous avez toujours la Tunisie et l'Égypte, mais de l'autre côté, vous avez des sociétés totalement pétrifiées comme la société irakienne ou la société libanaise, et une société qui aujourd'hui connaît un phénomène de violence massive qui est la Syrie. Pourquoi la situation tunisienne, la configuration tunisienne et la configuration égyptienne n'ont pas pu être reproduites ailleurs ? Je pense que pour répondre à cette question-là, il faudrait avant toute autre chose se rappeler de l'historicité de l'État et du temps long. L'historicité de l'État, il ne faut absolument pas oublier que la Tunisie et l'Égypte ont été des pays qui ont été centralisés, qui ont connu une période de réformation, de réforme musclée dès le début du 19e siècle. Et le Beylika, le Bey en Tunisie et Mehmet Ali en Égypte ont pu réaliser une centralisation telle qu'on n'a pas pu observer, par exemple, dans l'Empire ottoman. Cette centralisation a amené plusieurs évolutions dans la durée. Une première évolution, la centralisation signifie aussi la centralité de la capitale. Autrement dit, vous pouvez avoir des contestations qui commencent dans les périphéries tunisiennes ou égyptiennes, mais in fine, le jeu politique se décide à Tunis et au Caire en tant que capitale. Il y a une capitale et cette capitale constitue le cœur politique du pays. Cette centralisation signifie aussi qu'il y a à un moment donné la capacité de faire société ou de s'imaginer comme une société. Ce qui ne veut pas dire que la société tunisienne est homogène. Au contraire, on sait qu'il y a à la fois un facteur tribal, il y a le facteur berbère, etc. On connaît combien la société égyptienne est complexe aussi. Il n'en reste pas moins qu'il y a l'idée de faire société. Et dans cette idée de faire société, des facteurs d'ordre tribal et confessionnel ne disparaissent pas, mais deviennent aussi secondaires. Je n'oublie pas du tout le phénomène copte en Égypte. On sait combien ce problème est un problème grave et se traduit par des périodes de violence sporadiques et par une minorisation de la communauté copte d'une manière générale. Mais il n'en reste pas moins que faire société signifie qu'à un moment donné, la société dans sa totalité peut s'imaginer comme clivée à partir des problèmes politiques, des positionnements politiques. Et enfin, je dirais que les sociétés tunisiennes et égyptiennes étaient des sociétés extrêmement ouvertes, mais les pouvoirs étaient totalement anachroniques. On assistait ainsi à un décalage entre le fait social, l'existence d'une société civile, d'un pluralisme certes réprimé mais réel, d'une presse certes réprimée mais tout de même relativement libre à condition de ne pas critiquer le raïs, des sociétés accueillant des millions de touristes et des sociétés avec des fortes diasporas. Tout ceci explique que, à condition une fois de plus de ne pas critiquer Ben Ali ou Moubarak directement, on pouvait avoir des débats dans les universités où la télévision pouvait projeter, disons, des films assez subversifs. La série, pensez tout simplement à la série Immeuble Yacoubian, qui est on ne peut plus subversif. Et de l'autre côté, les pouvoirs étaient totalement anachroniques, en décalage très net avec les attentes de la société. Si on prend ces facteurs, on comprend pourquoi aussi ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte n'a pas pu être aussi facilement reproduit dans une société comme la société libyenne et dans une société comme la société syrienne. L'historicité est la centralité de l'État. L'État syrien est infiniment plus récent, sans même parler de la Libye, que l'État tunisien ou l'État égyptien. La centralité de la capitale, on sait combien Tripoli n'a pas joué le rôle central dans la construction même de la Libye. Au contraire, le facteur régional a toujours été là. Et lorsqu'on regarde la Syrie, certes, Damas a toujours joué un rôle culturel important, mais la Syrie n'existe que depuis le début des années 1920. Et les identités provinciales sont restées extrêmement fortes, ancrées dans une longue histoire, et se sont composées aussi dans une dynamique transfrontalière. Une ville comme Dar al-Zorb, par exemple, aujourd'hui encore, a les yeux virés en partie sur l'Irak, où Dar'a ne peut pas être conçu, compris, sans les dynamiques qui viennent, les dynamiques transfrontalières qui le lient à l'Égypte. Le facteur tribal dans une société comme en Libye est infiniment plus important, et si ce facteur a été amoindri dans un premier temps par le parti Baas, on sait combien le régime de Bachar al-Assad a réactivé la dynamique tribale. Et le facteur confessionnel, sur lequel je reviendrai, a été hélas extrêmement important dans l'évolution syrienne des 40 dernières années. Mais il me semble aussi important de s'intéresser à la nature de l'État, au-delà, disons, de ces dynamiques lourdes, de s'intéresser aussi à la nature de l'État. Et plusieurs chercheurs, à commencer par Michel Camon, ont analysé l'État arabe comme un État cartel. Un État cartel autoritaire, constitué autour d'une instance non élue, qu'on l'appelle Raïs, le roi, ou tout ce que vous voulez, ou Malek, et constitué autour essentiellement comme une coalition sécuritaire. Dans le cas de la Tunisie et de l'Égypte, cet état cartel était structuré autour de Raïs. Le Raïs était le primus inter pares de l'état cartel, mais le cartel incluait également d'autres composantes, les organes de sécurité, une certaine bourgeoisie comprador qui a émergé au cours de 10-15 dernières années, mais surtout l'armée. Et l'armée disposait d'une réelle autonomie axiologique au sein du cartel. Sans cette autonomie axiologique de l'armée, on peut difficilement comprendre pourquoi le Raïs a pu être éjecté aussi facilement. Autant le Raïs protégeait le système dans sa totalité en temps de paix et de stabilité, autant le Raïs devenait un fardeau au moment de la crise. Et l'armée dans les deux pays a été obligée de prendre cette distance par rapport au président qui avait perdu toute sa légitimité. Dans le cas de la Libye et de la Syrie, on a une situation totalement différente parce que la nature de l'État cartel est très différente. L'État cartel est un État cartel organique, organique, para-étatique, fonctionnant à partir d'une logique milicienne et disposant d'une économie prédatrice, d'un principe d'économie prédatrice sur la société. Ce qui ne veut pas dire que la société ne sont pas plurielles, mais à un moment donné, la nature organique de l'État empêche toute défection majeure. Vous pouvez avoir des soldats qui désertent, qui passent à la dissidence, vous pouvez avoir tel ou tel général qui passe à la dissidence, mais il est tout simplement inimaginable d'envisager la défection de l'armée en tant que corps. D'où le fait qu'à un moment donné, le scénario qui a été si facile à produire en Tunisie et en Égypte était devenu tout simplement impossible et on est passé à une logique de répression massive dans les deux camps. Mais l'ingénierie de la crise a été très différente aussi dans ces quatre pays. En Tunisie, le président Ben Ali a promis de ne plus se représenter en 2014, pour la sixième ou septième fois. Qu'est-ce que cela signifiait ? Cela signifiait tout simplement qu'il reconnaissait qu'il était illégitime et qu'il demandait à sa société de le reconduire dans toute son illégitimité. Cette reconnaissance de l'illégitimité l'a non seulement affaibli au sein du cartel, puisqu'il ne pouvait plus du tout présenter un horizon d'attente à l'armée, par exemple. Pourquoi compter sur un président qui va partir ? Mais ce contrat d'illégitimité renforçait aussi la société. S'il reconnaît qu'il est illégitime, cela signifie que nous, le peuple, nous sommes légitimes. Et partant, la Tunisie de Ben Ali a été également fragilisée sur la scène internationale, puisque plus aucun État occidental ne pouvait soutenir un président déclarant lui-même qu'il était illégitime. Et il est impressionnant de voir que Moubarak a fait exactement la même erreur en disant qu'il n'allait plus se représenter en septembre ou octobre 2011. Là encore, une reconnaissance d'illégitimité. Et Pareto, le sociologue du début du siècle, du 20e, disait « Malheur aux élites qui avouent leur faiblesse ». Une élite qui est au pouvoir et qui avoue sa faiblesse n'a plus aucune chance de survie. En Syrie et en Tunisie, on a assisté à une ingénierie de crise qui est radicalement différente. Cette ingénierie de crise consiste, dans un premier temps, de fragmenter l'espace et le temps de la contestation. Qu'est-ce que signifie fragmenter l'espace de la contestation ? Cela signifie tout simplement qu'on évite la transformation de Damas en une capitale politique, une capitale de la contestation. On casse telle ou telle ville, l'armée détruit la moitié de la ville, se retire, on va dans une autre ville qu'on détruit, on se retire, etc., etc. Ainsi, on crée des républiques autonomes et aujourd'hui, toute la Syrie est devenue un ensemble de républiques dissidentes autonomes et en même temps, ces républiques autonomes ne peuvent pas facilement s'agréger. Et fragmenter le temps de la contestation, car c'est le temps de contestation. N'oublions pas que le sort de Ben Ali a été réglé en 3 jours, le sort de Moubarak a été réglé en 18 jours. C'est des périodes extrêmement courtes, le temps est condensé. Or, la répression telle qu'elle a été appliquée en Libye d'abord, en Syrie après, a rendu tout simplement impossible cette montée en densité dans le temps. Et du coup, on est entré dans une période très longue de 11 mois qui peut encore continuer. Mais l'ingénierie de la crise a consisté aussi à combiner la répression, la peur et la contrainte. La répression, parce qu'il est évident que d'emblée, le massacre s'est imposé comme la seule réponse que le régime pouvait donner à la contestation. Il n'y a absolument pas eu d'hésitation et on sait que malgré la dissidence de tel ou tel militaire, le corps militaire dans sa totalité, ou le corps milicien a suivi. Et depuis une dizaine de jours, lorsque vous voyez ce qui se passe à Homs et maintenant à Hama, vous comprenez que là, il y a eu un changement d'échelle. On n'est plus dans juste la répression qui fait plein de morts. On est dans la destruction pure et simple. On arrive à 100, 150 personnes tuées par jour. La peur est réel. Le régime utilise aussi la peur. La peur, non pas contre une grande partie de la société, de toute façon contre la grande partie de la société, on utilise le massacre comme une réponse, mais la peur auprès des minorités. Et aujourd'hui, il est évident que les minorités chrétiennes sont pétrifiées. Il y a cette peur de l'incertitude par rapport à l'avenir. Mais cette peur, on y reviendra éventuellement dans le débat, concerne aussi les Kurdes. Les Kurdes ne savent pas du tout comment se positionner. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de contestation, il y a des contestations massives dans l'espace kurde, mais les Kurdes ne savent pas comment se positionner dans une configuration à la fois très sanglante, qui s'inscrit dans la durée désormais, 11 mois, c'est très long, et dont personne ne connaît l'issue. Enfin, la contrainte près de la communauté alaouite. J'ai toujours résisté à la tentation d'avoir une lecture confessionnalisée de l'Irak et de la Syrie. Il n'en reste pas moins que le régime de Saddam Hussein en Irak et le régime de Bachar al-Assad, le régime de Bachar al-Assad ont confessionnalisé à la fois la répression, mais surtout le discours. Le discours a été confessionnalisé, et cette confessionnalisation signifie tout simplement aussi que le régime s'impose comme une force milicienne à la communauté alaouite contre laquelle elle utilise, laquelle la communauté est pétrifiée aussi de peur, contre laquelle elle utilise des moyens de contrainte. Ainsi, l'État devient le principal agent de la confessionnalisation, et cette confessionnalisation ne peut laisser intacte la contestation. On sait, ne serait-ce qu'à la lecture des déclarations de l'armée syrienne libre, combien cette logique confessionnelle commence à faire sens. J'espère, en partant de tout ceci, qu'on va pouvoir éviter un scénario à l'irakienne qui a été fait vraiment à la fois dans de l'horreur pure, notamment entre 2004 et 2007. Donc je m'arrête là. Oui.
Merci pour le temps. Merci.